Salut Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves.
Salut, je suis là.
Donc, écoute, je vais devoir écouter ta chronique parce qu'on a, on s'est étiré un peu avec Luc. Puis je vais l'écouter encore plus parce que avant de passer à tes sujets, tu connais la, je veux te parler de Patagonia. Tu connais cette chaîne de vêtements oui. de plein air. Mm-hmm. Ben, écoute, ça a commencé à circuler sur Internet sous l'étiquette là qui est, si tu veux, dans le dos. Quand oui. tu retrousses l'étiquette, c'est écrit boucher les oreilles des enfants. Vote the assholes out. Votez ouais. contre les trous de cul.
T'as-tu vérifié?
Et écoute, Patagonia au magazine Ad Age a confirmé que c'est vrai.
Ben oui, mais ça attaque personne. Ça dit rien. Ça dit sortez les un à un. Mais ça veut pas dire lequel ou laquelle ou tu comprends?
Oui.
C'est tout.
C'est du bon marketing?
C'est du très bon marketing, Patrick. On va se le dire. Parce que c'est un marketing qui ne vise personne. Mais la personne est tellement en bon anglais aux États-Unis « obvious ouais. » que le marketing fonctionne. Imagine, ils font juste dire une phrase bien classique, un peu dans un langage cru, mais qui dit très bien qu'il y a un lien électoral avec ça, sans le dire. Alors, la compagnie peut juste dire « Hey, nous autres, c'est notre côté trash à dire « On sort les mauvais. » Mais on sort les mauvais de où, tu sais? C'est fort, mais parce que dans le fond, c'est viral.
Depuis des années, là, le fondateur de Patagonia a toujours dit, OK? Là, ça a été écrit, là. Mais l'a dit publiquement, il faut voter contre les trous de cul. Et pour lui, les trous de cul en politique, ce sont les politiciens de qu'importe le parti qui nient ou qui ne font rien pour combattre la crise du climat et qui ignorent la science. Ils ont même, Patagonia là, a même poursuivi, semble-t-il, là, l'administration américaine là, contre la fin de certaines mesures de protection de terres naturelles.
J'avais oublié cette compagnie, Patrick. Imagine comment c'est fort comme outil marketing. Ça nous le ramène à l'actualité.
Mais vraiment, écoute, c'est... En tout cas, tu sais, souvent, les compagnies veulent être prudentes, ne veulent pas faire de vagues. Ça, c'est...
ouais, ça, c'est all-in, comme on dit.
Et écoute, ça j'imagine que ça vaut beaucoup de millions de dollars en termes de retombées publicitaires. OK, parfait. Parle-moi de Spotify, Zoom, Netscape.
Bon.
On est en train d'assister à la mort de certains similigères.
Pas la mort. Non, mais disons, c'est fragilisé. Tu sais, Patrick, toi qui es un plus vieux, tu as connu la naissance d'Internet, mais même l'avènement, la démocratisation.
C'est là quand ça a été fondé.
Mais le niveau, les années 90, quand on avait Netscape avait un problème.
Oui.
Tu achetais Netscape, c'était tout ce que Netscape pouvait t'offrir. C'était un furteur Internet. Et là... Windows est arrivé avec la copie Explorer, puis on est parti, on l'a donné, donc les gens ont adopté. Et Spotify se retrouve dans un modèle Netscape. Spotify se dit, « Hey, nous autres, quand on est sortis avec notre musique en ligne, là, notre Pokéball du moment, hey, c'était beau, notre streaming, mais là, tout le monde a son Pokéball, mais en plus, Apple, en plus d'avoir le Pokéball, sont prêts à nous offrir de la musique, de la TV, des arcades, du iCloud, 50 gigs de iCloud, tout ça pour 15,95 par mois, pendant que nous, on offre juste de la musique. Donc, nous, on offre un Pokéball, puis eux, ils offrent en plus des sushis, des steaks, tout le kit. Donc, pour le même prix, ou à peu près, on est fait, et voilà, ils offraient le même prix pour la musique, mais là, Apple arrive dans une position dominante. Apple n'a pas besoin de faire d'argent avec ça, en plus, parce que Apple peut faire d'argent avec le cloud, puis les outils.
OK, tu sais qu'aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent là depuis des années pour casser ces géants-là. Justement parce que, tu sais, Apple peut se lancer là-dedans, casser la compétition, a même pas besoin de faire de l'argent avec cette division-là. C'est-tu bon pour le public qu'il y ait des géants comme ça qui puissent faire des moves semblables pour casser la concurrence?
Tant aussi longtemps que l'application te donne de l'utilité, qu'ils n'abusent pas de ce pouvoir et qu'ils font une marge de profit raisonnable. Et là, Apple, pour un trimestre, près de 60 milliards de revenus dollars américains, 11 milliards de bénéfices nets, et le département service, qui est le cloud, ne fait qu'augmenter. Alors, est-ce que la musique est payante? Je ne sais pas, mais la musique, dans le reste, finit par être payante. C'est comme, si tu as chez toi Amazon Prime plus Apple, Spotify, tu le regardes avec des yeux de « pourquoi je te paierais?
Mm-hmm. »
Et c'est ça que Spotify réalise. Et tu vois, dans les états financiers de Spotify, on est en, pour le niveau net d'income, de financial income, 288 millions d'euros de pertes pour un trimestre. Et si on inclut attribuable aux compagnies, disons, en haut, c'est 356 millions d'euros de pertes. Et donc, on n'est pas dans la game du tout, tandis qu'Apple fait de l'argent. Zoom, dans la même position, mais Zoom fait de l'argent. Zoom a augmenté ses revenus de façon magistrale. En fait, les bénéfices nets sont passés de 5,5 millions à 186 millions de profits. Mais là, Zoom est bien populaire, c'est la pandémie, ça commence. Mais quand Microsoft va rentrer avec son team très fort, puis que Facebook va à côté aussi, penses-tu qu'ils vont suivre la parade? C'est presque impossible. Donc, ça va peut-être arriver, je sais pas. C'est une idée lancée dans le ciel, mais Zoom est dans une position quand même plus fragile que Microsoft.
Tu trouves pas justement que ces géants-là, ça a le potentiel de tuer des écosystèmes comme ça qui peuvent arriver avec des innovations intéressantes?
Tu sais, si tu prends Facebook, Apple, puis Google, puis toute cette gang-là, t'es mis ensemble. Ils sont capables d'acheter tout le monde, Patrick. C'est ça l'affaire. Oui. C'est que dès que t'as une bonne idée, tu te fais acheter. D'ailleurs, prends Snapchat.
Oui, mais c'est pas bon pour le client. Ça. C'est bon pour le gars qui invente le nouveau machin.
Ça dépend. Ça donne plus de pouvoir pour du développement technologique ou c'est moins bon pour le client. C'est plus le contrôle. Tu sais, Snap est arrivé avec une belle idée. Snapchat, là, tout le monde a trippé, mais Facebook a regardé ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une offre. Snap refuse, pas de problème. Je vois tellement de copier qu'Instagram, ça va être Snap, Snapchat, mais avec du rose, puis pire que ça. Toi, je vais dire à mes abonnés Facebook, hey, ton ami qui
comprends,
est sur Snap.
Pierre-Yves, je comprends. Toi, tu t'émerveilles du move de business de casser ça, mais pour le client, ça demeure que les deux gros médias sociaux, Facebook et Instagram, ça a même patente.
Mais plus t'es gros, plus tu deviens gros. Écoute, te souviens-tu de Microsoft à l'époque qui avait dit « On va casser Microsoft en quatre, c'est monopolistique. » Puis je sais pas ce qui est arrivé.
Non, mais
c'est passé dans le beurre.
Ouais, tu comprends. Mais l'idée vient du fait que dans les années 80 ou 70, je pense, le gouvernement américain a fait ça avec les compagnies de téléphone.
Fractionné.
Parce que je sais pas lequel des Bell était beaucoup trop gros.
Puis au Canada, te souviens-tu, on a payé de l'interurbain longtemps. Mais quand tu y penses, Patrick, d'un point de vue business, là, pourquoi je paierais pour un appel qui coûte pas 33 cents la minute? Là? C'était une façon de facturer le réseau. Et comme il n'y avait pas de concurrence, bon, on payait. Puis on disait rien. J'appelais mon oncle à Québec, ça coûtait 20$. On s'était jasé 8 minutes. Non, j'exagère, mais c'est fou le nom. Quand tu dis ça aux jeunes d'aujourd'hui, hey, ton ami à Drummondville ou à Québec, là, ça t'a coûté 20$ si jasé à soir.
Écoute, notre appel présentement est gratuit, mais je dois te laisser aller.
Bye bye.